paraît que c'est la première question qui est la plus dure à poser. Alors, je vais me lancer, je vais peut-être me présenter. D'abord, Thierry Lecomte, je suis là au titre de Ramsar France, dont je suis administrateur, mais je ne suis pas le seul, puisque Georges Albert était aussi membre fondateur, administrateur de cette association. Je viens de Normandie. J'ai quelques responsabilités autour de la création, de la désignation d'un site Ramsar sur la rive gauche de l'estuaire de la Seine. Et à ce titre-là, j'ai eu plusieurs questions. La première, c'est que j'ai trouvé ces fils vraiment fantastiques et j'aimerais bien pouvoir les partager avec les habitants de mon site Ramsar, à la fois parce que je préside une association des amis du site Ramsar et en même temps, je suis écologue, plutôt spécialisé moi, sur l'interface entre herbivorie et biodiversité, mais il se trouve que les hasards de la vie font que je suis président d'une association de propriétaires de terrains cinégétiques et qui a bien aidé aussi à désignation du site Ramsar. Et pour l'Assemblée Générale, j'aimerais bien pouvoir aussi présenter cette ouverture sur le monde, parce qu'on est parfois un petit peu trop replié sur non seulement sur notre hexagone, mais sur nos zones humides locales. Et je pense que c'est vraiment intéressant de décorseter un petit peu les esprits en ouvrant sur ces espaces. Et il m'est venu également une idée, parce que je suis aussi à la recherche d'une possibilité de jumelage donc entre sites et pourquoi pas avec un site africain. Plutôt francophone, ça nous faciliterait quand même les choses, mais bon, on peut aussi faire des efforts dans le sens donc d'une découverte d'un pays qui ne parle pas forcément facilement français. Voilà, c'est donc est-ce qu'il y a possibilité de projeter ces documents donc dans des assemblées générales, locales ou locales, mais ça ferait du bien, je pense, aux personnes qui sont impliquées dans ces zones humides donc de l'estuaire de la Seine, de montrer un peu aussi leur responsabilité sur quelque chose qui est beaucoup plus vaste, en fait. Je vous remercie. Et merci beaucoup pour m'avoir invité donc à cette soirée.
Moi, je pense que ce film il sera mis sur la chaîne YouTube de la Fondation France Mer, de la Tour du Vala aussi, j'imagine. Donc, très facilement, on avait attendu cette première pour les placer sur ces sites, mais ce sera donc disponible largement. Et je trouve que c'est une excellente idée de montrer à des gens. On pourrait le montrer en Camargue aussi. Le Camargue aussi est un site Ramsar et je crois que les gens n'imaginent pas qu'effectivement partout à travers le monde il y a des gens un petit peu comme eux qui sont responsables de la gestion d'un site, de la conservation d'un site pour préserver toutes ces ressources migratrices ou non d'ailleurs. Et Monsieur Lecomte, merci de cette intervention. J'ai commencé ma carrière en lisant vos papiers sur le Marais Vernier, me semble-t-il, et les fameuses vaches écossaises qui existe peut-être encore, d'ailleurs. En tout cas, merci.
Et pour ce qui est du jumelage, on va certainement trouver quelque chose en magasin de francophones.
Bonsoir. Merci, Monsieur Lecomte, pour la première question. Effectivement, la seconde sera plus facile. Alexandre Chavet, moi, je travaille à la Fondation France Sommaire. Je merci aussi pour la qualité de l'intervention et des films. Je m'interrogeais justement sur la dimension changement climatique par rapport à ces zones-là. Est-ce que elle a été prise en compte en termes de modification des régimes hydrographiques, par exemple, qui vont influer sur la biodiversité, sur les espèces présentes sur place, en fait. Est-ce que cette dimension, vous allez l'appréhender de quelle manière?
Mais en fait, oui, tout à fait. En fait, pour dire vrai, on a commencé ce programme en 2012, mais on a réellement décidé avec nos partenaires d'essayer de classer cette zone Ramsar en milieu de période. On se demandait pourquoi est-ce qu'on allait embêter ces gens-là avec une désignation Ramsar. Après tout, ils vivaient bien dans cette zone. Et puis, on a décidé vraiment d'essayer de faire classer cette zone Ramsar parce que, vous avez vu, c'est une zone endoréique, hein, complètement. C'est-à-dire que si, en fait, pour une raison X ou Y, il y a des gens qui décident de faire un projet qui utilise l'eau en amont, les gens du bout du delta, n'aurait plus aucun moyen de vivre, quoi, en fait. Donc c'est en fait essentiellement pour ça qu'on a essayé de faire déclarer cette zone Ramsar avec nos collègues soudanais. Et avant de faire évidemment ce projet, on a bien regardé les divers scénarios prédictifs du climat dans cette zone. Et il est évident que s'il y avait eu un assèchement programmé ou probable, d'après les scénarios des climatologues, on ne l'aurait pas déclaré, je pense, Ramsar, parce qu'en fait, ça aurait été inutile. Mais là, en fait, dans les scénarios qu'on a vus et dans les prévisions depuis dans le Sahel, et dans cette zone-là, on a vu que c'était encore possible d'intervenir. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc on a tenu compte de ça. Évidemment, les prédictions, elles peuvent être fausses. On sait bien que les prédictions, enfin c'est des prédictions, mais ce ne sera pas la première fois que ça arrivera. Mais en tout cas, on a essayé de faire attention à ça, quoi.
Et alors, en bénéficiant notamment du programme ressources et notamment du soutien du Fonds français pour l'environnement mondial, on a réussi à faire travailler, à initier, sans forcément la financer entièrement, initier une thèse en Allemagne par une Soudanaise, une thèse d'hydrologie essentiellement. Et c'est cette personne en particulier qui a bien potassé les modèles météo-climato sur le Soudan localement et qui a vraiment constitué des modèles qui semblent prédire une stabilité complète.
Oui.
Voire peut-être même dans d'autres endroits du Sahel, une légère augmentation
malheureusement, une augmentation. Les prédictions, c'est en fait quantité de pluie à peu près égale, sinon en augmentation, mais aussi plus concentrée. Et alors, pour passer du boom sur les prédicteurs que j'ai cornés tout à l'heure, en fait, ça s'est malheureusement vu déjà dans les deux dernières années. Je crois que Khartoum a été sous l'eau, inondé très brutalement, de même que la région du lac Fitri. Et la ville de Yao a été aussi inondée. Donc en fait, on prévoit plus de pluie ou la même quantité, mais peut-être de façon plus violente encore. Donc ça semble se réaliser. Bon, on ne peut pas dire avec deux années, mais enfin, c'est comme ça.
Oui, bonsoir. David Brugère du bureau d'études BRL Ingénierie, qui a eu le privilège de préparer la faisabilité du projet ressources et l'évaluation pour le compte du Fonds français pour l'environnement mondial. Concernant le projet ressources, je voudrais souligner qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de ce projet, mais il y a un axe qui est particulièrement intéressant et qui était innovant, c'est essayer d'estimer sur ces grandes zones humides du Sahel le prélèvement des oiseaux par les acteurs locaux et la durabilité de ce prélèvement en vue à terme de mettre en place des plans de gestion comme on peut en connaître en Europe et en France. C'est un exercice difficile. Pour tout un tas de raisons, méthodologiques, logistiques, d'accès aux informations. Mais c'est vraiment un aspect assez innovant, pas dans son concept en général, mais dans la mise en œuvre ici, dans ces zones-là, d'évaluer l'état de la ressource qui se fait par le cadre des comptages. Ça, c'est quelque chose que vous faites habituellement. Mais essayer de croiser à la fois le prélèvement, l'état de la ressource et en déduire des activités de gestion, ça, c'était vraiment un enjeu important de ce projet qui n'a pas été totalement atteint, mais ce n'est pas grave. La dynamique est en cours et sur une deuxième phase du projet qui est en préparation, probablement, ce sera un axe important. Donc, dans cette maison qui se soucie beaucoup de la durabilité des prélèvements, je pense que c'était important de souligner que c'était un axe important de ce projet-là et vraiment très axé sur les questions de développement local. Voilà.
Juste un petit commentaire. Effectivement, on a eu la surprise. En fait, on n'a pas décidé de faire ce projet ressources, effectivement, un petit peu au hasard. En fait, ça fait un moment quand même qu'à l'ONCFS ou à l'OFB ou à d'autres organismes, on traîne dans les zones humides sahéliennes et on se rend très bien compte effectivement de l'importance des oiseaux d'eau pour les gens qui en parlent très facilement dès lors qu'ils voient que vous vous intéressez aux oiseaux, que vous les comptez, que vous expliquez ce que vous faites. Ils parlent très 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 volontiers de leur prélèvement. Ce n'est pas du tout une activité cachée. On voit très bien dans le film en fait. On a toujours... Si on considère que le prélèvement est légitime, on n'a aucun problème à parler avec ces gens-là, ils se confient très facilement. Si évidemment on est un petit peu contre les prélèvements et qu'on rechigne, etc., alors ils le sentent très vite et là, la fermeture est immédiate. Mais vous voyez, dans ce film, la personne parle du piégeage, elle ne dit pas qu'elle fait ça d'ailleurs par grand plaisir, elle dit un peu quand on est obligé, quoi. Mais en fait, elle parle devant un officier de la Wildlife Administration et donc elle se sent parfaitement légitime de faire ça, quoi. Et en fait, il y a souvent ce décalage là entre les extérieurs aux zones humides, les citadins qui pensent qu'il faut protéger les oiseaux parce que c'est mal de les manger, et les habitants qui considèrent que c'est tout à fait légitime et qui, dès lors que vous vous intéressez à eux, se confient assez facilement, j'ai trouvé. Et on a remarqué ça dans beaucoup de zones humides du Sahel, et en particulier au lac Fitri, où on a passé avec Pierre plus de 2 mois l'année dernière à partager la vie des pêcheurs sur le lac Fitri, où on voit que les gens se confient assez facilement sur leurs prélèvements. Et quand on leur explique que peut-être ça peut aboutir à ce que l'administration leur fiche un peu plus la paix sur leurs activités, ils sont assez intéressés de coopérer avec vous, quoi. C'est un commentaire général.
Alors sur la zone qui est concernée par le second film, on a eu la chance de, encore une fois grâce au programme ressources soutenu par le FFM et l'Union européenne, on a eu la chance de mettre en place une étude socio-éco sur les activités directement liées aux zones humides naturelles, donc élevage, agriculture, pêche et chasse. Et on s'est aperçu qu'il y a, on a échantillonné 70 villages sur à peu près 300 ou 400. Et il y a à peu près entre 2 et 4 ou 5 chasseurs par village qui font ça entre 20 et 80% de leur temps pour des prélèvements qui méritent d'être affinés parce qu'on a des chiffres grossiers, mais qui sont loin d'être négligeables et qui pourraient dépendre évidemment des effectifs d'oiseaux d'eau présents sur la zone humide en question, de Jorabouabil, mais également sur les zones humides plus au sud, et notamment une zone humide mythique, le Sud, au centre du Sud, pour lesquelles c'est pourtant une des plus grandes zones Ramsar du monde, et une zone complètement vierge, et pour lesquelles il n'y a, a priori, jamais eu de dénombrement d'oiseaux d'eau à la bonne période, c'est-à-dire en janvier. Il y a eu énormément, quelques dénombrements de mammifères. C'est des plus grandes migrations, peut-être la plus grande migration mammifère au monde. David connaît ça mieux que nous. Mais en termes d'oiseaux d'eau, c'est une énorme lacune de connaissances pour les oiseaux d'eau européens.
Bonjour, Pierre Carrette du Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, CEPF. Merci pour les deux films et pour votre intervention, c'est fascinant. Et je voulais revenir sur le premier film, et je trouve que c'est vraiment très très important. On voit cet effort pour la formation et pour la génération de données. Et la donnée, c'est vraiment ce qui permet par la suite de pouvoir faire de l'action de conservation. Parfois, on a tendance à l'oublier. Donc, je trouve que c'est vraiment une initiative qui a souligné. Et je voulais poser juste une petite question très brève. Est-ce que les données qui sont récupérées par tous ces acteurs par la suite participent ensuite des données qui servent à définir les zones clés pour la biodiversité, qui tendent à devenir un peu le standard principal pour les programmes de conservation?
Merci pour la question. Toutes les données récoltées dans le cadre des projets et avec nos partenaires, comme c'était dit dans le premier film, sont transférées à l'instance internationale qui est Wetlands International, qui, elle, est en charge de la rédaction du CSR, du rapport sur le statut de conservation des espèces. Et donc après, pour les sites critiques, c'est via Wetlands International que c'est utilisé. Et donc, nous, en tant que UST, c'était de participer à la collecte des données sur les terrains et de les transférer dans le bon format à l'ONG Wetlands International.
On va prendre encore une question dans la salle et puis il y a quelques questions en ligne aussi après et avant de passer à la suite.
Bonjour, Annie Charlaise, une ancienne de l'Office de la chasse et de la faune sauvage, et juriste, ça change un petit peu. D'abord, bravo pour ces magnifiques films et tout ce que vous avez fait. Moi, il y a une question que j'ai à poser. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour mon cher ami Cyril de Clem, qui était à l'origine de la AEWA. Voilà, donc merci à Cyril pour tout ça. Je voudrais savoir s'il y a eu des formations aussi pour... on a vu les techniciens, les ingénieurs, tout ça, mais les gens, et en particulier les femmes et les enfants, est-ce qu'il y a des actions de formation aussi sur les oiseaux pour ces personnes-là? Parce qu'elles doivent participer aussi pour que ça puisse progresser, pour que ça puisse marcher, je pense.
Alors, ben, déjà, avant même que le programme ressources n'ait démarré, mais le programme ressources a contribué à renforcer ça, Jean-Yves Mondamoine, notamment, à l'ONCFS à l'époque, et nous-mêmes avions imaginé et conçu le premier guide en arabe d'identification des oiseaux d'eau de la moitié nord de l'Afrique. Et ce guide était évidemment, avait pour vocation d'être distribué gratuitement en Afrique, et notamment dans les écoles. Et on a la chance que la balle a été saisie au bon par l'Institut de recherche de la Tour du Valin, qui, à travers ses bailleurs, a pu faire plusieurs rééditions. Et donc, on a l'audace de croire que ce bouquin est maintenant présent dans pas mal d'écoles en Afrique. Et nous-mêmes, nous continuons à essayer de le distribuer. Et en l'occurrence, les instituteurs sont très, très contents de trouver de quoi lire en arabe sur des sujets d'actualité. Donc voilà, pour les enfants. Et puis, pour les femmes, oui, les femmes. Et pour les femmes, on a la chance aussi d'avoir fait travailler avec nous, dans le cadre du projet Ressources cette fois, un formateur arabophone qu'on a vu à l'écran, Hichem Zafzaf, tunisien, qui a fait plusieurs formations, plusieurs sessions de formation. Et dans ces sessions de formation, notamment au Soudan, il y a de nombreuses femmes professeurs des universités qui assistent. Il y a peut-être même un sexe ratio presque équilibré, j'exagère
un peu. Oui, tout à fait. Non.
C'est quand même assez surprenant de voir, surprenant pour un pays comme le Soudan, je ne sais pas si c'est très politiquement correct de dire ça, et de voir ce sexe ratio aussi équilibré dans les formations d'assez haut niveau universitaire qu'on dispense.
Et alors, voilà, on n'a pas fait typiquement de formation dans les villages, mais en fait, quand on a réfléchi à la deuxième phase du projet ressources, on s'est dit qu'effectivement, ça serait vraiment super intéressant de développer un module qui puisse être facilement montré aux gens des villages sur les oiseaux. Et en fait, ça, c'est une deuxième partie. Ça, on ne l'a pas fait, c'est vrai. On a été quand même assez surpris au Tchad de voir que les pêcheurs connaissaient remarquablement bien les oiseaux facilement identifiables. C'est quand même assez rare. En fait, effectivement, bon, après, quand on rentre dans les détails des oiseaux qu'il faut identifier aux jumelles ou au télescope, bah, évidemment, ce n'est pas possible. Mais je pense que ça serait super intéressant, effectivement, dans le cadre du cours en ligne, d'extraire des vidéos et de les montrer dans les villages, effectivement, ou dans les écoles, les enfants. Là, il y a un champ qui est quasiment vierge et qui, à ma connaissance, pas été trop fait au Sahel, en tout cas dans l'est du Sahel. Je trouve que ça serait super intéressant de le faire, quoi, de montrer aux gens d'où viennent les oiseaux. Ils arrivent, effectivement, c'est compliqué, hein, parce que bon, pour nous, c'est évident, la Terre, elle est ronde, la Sibérie est là, etc. Mais quand on est sur un lac en Afrique, on ne sait pas trop d'où viennent les oiseaux. Moi, je crois que ça serait très intéressant de développer un module comme ça. Oui, qui peut-être plume les oiseaux aussi. Je pense que ça serait...
On va prendre les questions en ligne.
On nous entend dans la salle ?
Oui, ouais, super.
Super. Donc, on a un commentaire et une question de Tim Dodman, qui vous remercie pour les présentations. Il trouve que c'est bon de voir ses amis et collègues, même si c'est à distance. C'est formidable de voir certains des résultats du projet Ressources, notamment l'échange fructueux entre des collèges de faune et les efforts déployés au Soudan. Il espère que certains résultats pourront être présentés lors du prochain congrès ornithologique panafricain qui se tiendra en novembre au Zimbabwe. Et donc sa question, donc le renforcement des capacités et le suivi nécessitent tous deux des efforts constants qui sont généralement plus efficaces lorsqu'ils sont menés au niveau local. Sur un site aussi impressionnant que Khor Abou Abil, des mesures sont-elles prises pour mettre en place un réseau local d'experts ? Et par ailleurs, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur ce site ?
Alors, salut Tim, un vieux copain. Oui, c'est une très bonne idée. Enfin, on y a évidemment pensé. D'abord, ce site Ramsar, il vient de naître il y a une semaine, peut-être officiellement. On espère que les procédures administratives vont aller à terme. Mais en tout cas, la démarche officielle a été initiée. Et donc, c'est une immense joie. Et un site Ramsar, théoriquement, pour sa bonne politique, appelle un plan de gestion. Et le contenu de ce plan de gestion, on espère évidemment, on y a contribué, on est sollicité en ce sens par les partenaires soudanais. Et une première mesure à laquelle on penserait, ce serait de construire, d'élaborer, de développer du matériel pédagogique pour les écoles dans ce site, un peu plus encore, Mme Charles, dans l'espoir, effectivement, de mettre un jour en œuvre un réseau d'experts locaux. Donc, effectivement, ce serait vraiment... quelque chose qui nous tient à cœur. Et par contre, pour la deuxième partie de la question, je l'ai oublié. Ah oui, bah le Zimbabwe. Bah, bien sûr, oui, le Zimbabwe, on va solliciter des autorisations, des feux verts, des validations, des clearances, des financements. Et puis si jamais on a la chance d'aller proposer d'abord ce second petit film, et puis éventuellement d'autres communications scientifiques, notamment sur les prélèvements et la durabilité des prélèvements au Sahel ou sur les effectifs et les nouveaux résultats d'actualisation des effectifs, on serait ravis d'être sélectionné par le comité scientifique de ce congrès qui a lieu tous les 4 ans en Afrique et qui est le plus intéressant, je dirais le plus international congrès d'ornithologie africaine. Donc on serait ravis d'y aller, ouais. Tim.
Merci à tous pour vos questions et je vais laisser les mots de la fin à Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat, et à Pierre Dubreuil de l'OFB.